Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. C'est par où la sortie? Rassurez-vous, avec cette épidémie, on a tous cette impression d'être des écureuils qui tournent dans une roue, à chercher un sens qui nous échappe un peu pour l'instant, il faut bien le dire. Mais on va finir par le trouver, on ne se désespère pas. À 18h15, c'est une des plus éminentes épidémiologistes qui viendra nous aider à comprendre ce qui nous arrive et ce qui nous attend, Dominique Costagliola de l'INSERM. Et puis toujours dans cette volonté de ne pas se laisser abattre, on se changera complètement les idées à partir de 18h35, on partira ailleurs avec une jeune romancière, elle s'appelle Sophie Astrabi, et son roman « La somme de nos vies » va vous faire et va nous faire beaucoup de bien. Bonsoir Amandine Bégaud.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
On découvre avec vous les grands titres dans l'actualité de ce lundi 25 janvier.
Et à la une ce soir, l'hypothèse d'un troisième confinement, encore et toujours à Bordeaux. Les commerçants, vous le verrez, anticipent. Dans ce journal également, Pasteur, qui renonce finalement à son vaccin, vous expliquera pourquoi. Et puis le Vendée Globe, et à deux jours de l'arrivée, c'est toujours très très serré. Le vainqueur d'ailleurs pourrait bien ne jamais avoir fait la course en tête, oui, c'est possible.
Et bien ça, on en parlera notamment avec Louis Baudin, qui est un expert météo, mais aussi un expert voile. Bonsoir Louis Baudin.
Bonsoir.
Pour parler un peu familièrement, demain ça va cailler. Hein.
Oui, c'est vrai, ça sera la journée la plus froide de la semaine, parce qu'après ça va remonter, mais c'est vrai que demain matin, comme le ciel sera souvent dégagé par rayonnement, les températures seront négatives quasiment partout. On descendra localement jusqu'à moins 3, moins 4 degrés dans la plupart des régions. Tout ça avec effectivement un ciel plus dégagé le matin, notamment dans la moitié est. Il restera peut-être quelques flocons entre les Vosges et les Alpes du Nord, pas sur du tout. Et puis dans la moitié ouest, on aura là aussi du temps sec, mais déjà un peu plus de nuages. Des nuages qui deviendront plus nombreux en cours d'après-midi, mais toujours sans pluie, sauf du côté de la Bretagne. Et puis toujours du grand soleil entre les Pyrénées et les frontières de l'Est. Alors après ces gelées matinales, les températures resteront encore une fois très basses l'après-midi. 4 à 6 degrés dans la moitié nord, 6 à 13 dans le sud.
Merci Louis.
RTL Soir.
Mais d'abord, alors que l'hypothèse d'un troisième confinement semble inéluctable, j'ai décidé ce soir de vous remonter le moral. Le
confinement. Je suis pas en train de coucher tout de suite alors.
Non, okay. Le confinement, figurez-vous, ça peut avoir du bon. La preuve avec l'histoire de cette mamie italienne qui vient de mettre la main sur un sacré pactole, Anne Lenir.
Cette mamie, âgée de 98 ans, surnommée Nonna Maria, a en effet trouvé un véritable trésor, 50 millions de lire, déposés sur un livret d'épargne de la Poste, soit, en comptant les intérêts, 475 000 euros. C'est en nettoyant de fond en comble son grand appartement, partagé avec sa fille, qu'elle a découvert tout au fond du tiroir d'une vieille machine à coudre, ce livret d'épargne, ouvert en 1986 par son mari, décédée il y a quelques années. Nonna Maria va récupérer l'argent au mois de mars, le temps d'achever les procédures administratives nécessaires. Non seulement elle est guérie du coronavirus, mais en plus elle va pouvoir gâter sa fille et ses petits-enfants, comme quoi le confinement peut aussi se révéler très enrichissant.
Comme quoi, merci Anne Lenir pour nous avoir remonté un peu le moral à Rome pour RTL. Bon, moins souriant, venons-en Amandine à ce troisième confinement possible, probable, en fait rien n'est encore complètement tranché.
Un nouveau conseil de défense doit avoir lieu mercredi, mais Jean Castex l'a dit aujourd'hui, des décisions seront prises cette semaine. C'était lors d'une visite de l'ARS Île-de-France, l'agence régionale de santé. Bonsoir Vincent Derosier.
Bonsoir.
Ça veut dire quoi? Qu'a voulu dire le Premier ministre?
Alors ça veut dire que Jean Castex a à sa disposition trois ou quatre options sur la table pour durcir l'actuel couvre-feu. Il y a le confinement week-end qui, d'après nos informations, n'est pas abandonné. Il y a le confinement léger, comme on l'a connu au mois d'octobre où les écoles restent ouvertes. Et enfin, il y a le bouclage total comme en mars dernier. Mais ce soir, la plus grande incertitude, elle est dans la tête du seul décisionnaire, Emmanuel Macron. Le président est très agacé par les positions des scientifiques qui ne lui proposent rien d'autre que le confinement, résume un proche. Le chef de l'État estime en plus que le prix à payer pour un reconfinement est exorbitant et selon son entourage, il est prêt à prendre des risques sanitaires pour maintenir un minimum de liberté dans le pays. Donc, comme d'habitude, Emmanuel Macron va attendre le dernier moment pour dire s'il faut durcir ce couvre-feu. Mais comme le rappelle un haut dirigeant de la majorité depuis le début de la crise, c'est souvent à la fin la ligne de la peur qui l'emporte. Et le président pourrait, une nouvelle fois, se ranger derrière l'avis des blouses blanches.
Vincent Derosier du service politique de RTL. En attendant, entre résignation et fatalisme, certains anticipent. Illustration avec les commerçants. commerçants du centre-ville de Bordeaux. Où l'on vous retrouve, Philippe Demaria.
Eh bien, aucun commerçant rencontré ne se fait d'illusions sur le reconfinement. Pour David Ducourneau de Sport Aventure, c'est la double peine. Il vend des articles de ski.
Un confinement très fort serait complexe. Je pense qu'il y a des sujets qui pourraient permettre d'élargir ça avec des méthodologies peut-être de prise de rendez-vous ou ce genre de choses qui permettraient de limiter les afflux dans les magasins, mais pour autant de continuer à, pour la santé mentale des commerçants, avoir une activité toujours. Fermer les magasins, c'est catastrophique.
Et quartier Saint-Paul, les restaurants ne font que livrer, les bars sont fermés. Pour une commerçante, le couvre-feu à 18h est inapplicable. Elle est favorable à une fermeture drastique plus efficace selon elle. Danielle, elle est couturière. Elle préférait un ciblage des personnes fragiles. Elle déteste tout simplement l'ambiance de son quartier en confinement.
C'est la vie qui n'est plus là. C'est-à-dire quand tout est fermé, il n'y a plus de vie. Et ça, c'est terrible. On a besoin les uns des autres pour exister. Et alors si nous, on ferme, alors là, c'est carrément une ville morte, tout simplement.
À Bordeaux, le reportage de Philippe Demaria pour RTL.
Du côté des vaccins, Amandine, deux infos à retenir ce soir. Une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence avec la bonne.
Moderna qui annonce que son vaccin reste efficace contre les nouveaux variants, qu'il s'agisse du variant britannique ou du sud-africain.
Et puis la mauvaise nouvelle.
C'est Pasteur qui jette l'éponge. Bonsoir Sophie Orange.
Bonsoir.
Que s'est-il passé?
Eh bien, très vite, les chercheurs ont compris qu'ils faisaient fausse route. Depuis le mois d'août, 90 personnes participaient à un essai de phase 1 d'un candidat vaccin ancienne génération, si l'on peut dire, basé sur le vaccin de la rougeole, adapté pour lutter contre le coronavirus, bien sûr. Sauf que la réponse immunitaire était très faible, en dessous des autres vaccins déjà présents sur le marché, mais aussi une réponse inférieure aux personnes déjà malades et immunisées contre la Covid-19. Donc, dès la phase 1, avec seulement 90 volontaires, l'Institut Pasteur décide d'arrêter. Cela fait partie du risque lié à la recherche, explique le directeur des affaires médicales, David Beaune, mais ce n'est pas une bonne nouvelle.
Alors, je ne dirais pas qu'on a raté le train, on a pris le train en marche. Malheureusement, il n'arrive pas à la destination qu'on espérait. Il y a eu un temps de déception et c'est compréhensible. C'est les aléas et la vie quotidienne des équipes de recherche.
L'Institut Pasteur ne se déclare pas battu pour autant et continue de travailler sur deux autres projets. Un vaccin par voie nasale, dans le nez donc, et un vaccin à ADN. Deux candidats vaccins encore en phase préliminaire. L'épidémie n'a pas dit son dernier mot. Il faudra peut-être plusieurs vaccins pour en venir à bout.
Merci à vous Sophie Orange et on parlera de tous ces sujets-là avec Dominique Costagliola de l'Inserm. Ce sera dans quelques minutes. Il y aura toujours des menhirs au parc Astérix. Des menhirs, mais plus de dauphins. C'est à suivre dans RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
19h et pratiquement 9 minutes, la suite du journal avec vous Amandine Bégaud. Et les dauphins chez Astérix, c'est donc fini.
Le parc Astérix a décidé de fermer son delphinarium, annonce faite alors que la proposition de loi sur la maltraitance animale doit être débattue demain à l'Assemblée. Arnaud Touche, en fait, le parc Astérix a décidé de prendre les devants.
Absolument, les 8 dauphins seront transférés d'ici la fin du mois de mars vers d'autres delphinariums en Europe. Mais pour Christine Grandjean, présidente de l'association Cétacés, qui s'oppose au delphinarium, cette solution n'est pas la bonne.
Pour le parc, c'est une bonne nouvelle. Pour les dauphins, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que ces dauphins, non seulement vont continuer leur captivité dans d'autres bassins, mais vont subir le traumatisme du transfert par avion, plutôt avion-camion, atterrir dans d'autres delphinariums avec des individus qu'ils connaissent pas, être séparés de leurs soigneurs et de leurs amis, pour se reproduire et continuer de se produire en spectacle. Donc je ne vois pas pour l'instant ni la bonne nouvelle ni la victoire.
Elle aurait préféré qu'il soit transféré dans un sanctuaire en mer. Les destinations et les dates de transfert resteront secrètes, nous explique le parc, pour assurer la sérénité des opérations. Au total, 10 personnes s'occupent de ces dauphins au sein du parc et elles seront toutes reclassées. C'est également une décision économique forte qui a été prise puisque c'était, après la montagne russe Osiris, le deuxième lieu le plus fréquenté du parc Astérix. Un visiteur sur deux venait au spectacle des dauphins.
Arnaud Touche du service économie de RTL. Des nouvelles rassurantes à présent ce soir de cette étudiante sénégalaise qui, souvenez-vous, elle avait disparu à Paris au tout début du mois de janvier. Eh bien, elle va bien et a été retrouvée saine et sauve. C'est ce qu'indique le communiqué publié aujourd'hui par le consulat du Sénégal à Paris. Diarisso, c'est son nom, se trouve désormais en compagnie de son parrain, le ministre de l'eau sénégalais, qui l'a pris sous son aile.
Et puis aux États-Unis, Amandine, plus de Donald Trump, mais son slogan « America first » reste la règle.
Oui, puisque Joe Biden a signé aujourd'hui un nouveau décret pour inciter le gouvernement fédéral à acheter davantage de biens et de services auprès des entreprises américaines. Les personnes transgenres, en revanche, pourront bien servir dans l'armée. Le nouveau président américain a décidé d'annuler l'interdiction prise par son prédécesseur.
C'est le moment où Louis Baudin va écouter attentivement votre journal. On va parler du Vendée Globe. On est grosso modo à 48 heures de l'arrivée.
Oui, a priori, hein, sans doute ce mercredi sera mercredi soir.
Et c'est toujours le suspense.
Et ils sont 5 à pouvoir l'emporter. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, Frédéric Veil, l'un d'eux n'a jamais fait la course en tête.
Effectivement, il s'appelle Boris Herrmann, il est allemand et il pointe ce soir à 78 000 du leader Charlie Dalin et à 50 000 de Louis Burton, actuel deuxième. Et pourtant, il a de fortes chances de remporter cette 9e édition et ainsi devenir à 39 ans le premier skipper germanique à inscrire son nom au palmarès du Vendée Globe. Pourquoi, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce qu'il dispose de 6 heures de bonification de temps pour s'être dérouté fin novembre sur les lieux du naufrage de Kevin Escoffier. Ces 6 heures seront donc retirées de son chrono une fois la ligne d'arrivée franchie, et si l'écart est, d'après mes calculs, de moins de 100 000 nautiques, eh bien, il pourrait être déclaré vainqueur. Mais attention, Charlie Dalin est en train de creuser l'écart depuis ce matin. Son bateau, même endommagé de son foil bâbord, est un avion de chasse. Rien n'est joué donc dans ce Money Time avec ce final qui s'annonce palpitant.
Frédéric Veil, Louis Baudin, il est quand même allé sauver un marin en détresse, ce garçon. Ça vous choquerait, vous, que ça ne soit pas le premier qui soit le premier ?
Ah non, pas du tout. Je crois qu'il ne faut pas oublier ce fait de mer qui était fondamental, puisque ça a permis de sauver la vie d'un marin. Donc je crois que, de toute façon, les marins l'accepteront. Alors après, c'est vrai que pour le spectacle, c'est toujours un peu gênant de voir que le premier n'est pas le premier.
Ouais, c'est très Covid, tout part en...
Oh oui, c'est ce que vous allez dire. Mais attendez, c'est pas encore fini, parce que là, ils vont avoir 24 heures de mauvais temps, avec beaucoup de vent. Donc ils encore se passer beaucoup de choses. Ils reviennent dans des zones où on peut rencontrer d'autres bateaux, donc il va falloir qu'ils soient très vigilants, alors qu'ils sont tous déjà très fatigués. Donc, suspense encore.
Donc, c'est pas joué.
Bon, on termine avec la bonne nouvelle du jour, notre bonne résolution, vous le savez, de 2021.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien Thomas, figurez-vous qu'on pourrait bien retourner en discothèque. Et oui, alors pas pour danser, hélas, mais pour se faire vacciner. Le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs propose ce soir de mettre à disposition les 1600 établissements de métropole et d'outre-mer, justement pour les transformer en centres de vaccination d'urgence pour toute la population. Il appelle d'ailleurs les pouvoirs publics et toutes les municipalités qu'ils souhaitent à entrer en contact avec eux. C'est une bonne idée.
Bah, c'est surtout un joli geste pour un secteur qui est tellement en difficulté, c'est généreux. Bravo, tiens, un petit coup de Dalida pour le coup. J'ai connu Amandine au Pincho Pingo à Montpellier, c'était elle dansait.
Vous l'avez sorti d'où le Pincho Pingo ?
J'y suis allé, les Montpellier Rinceron, et il y avait le Machico aussi, mais oui.
D'accord.
Allez, à tout à l'heure, Amandine. Elle est épidémiologiste et vient de remporter l'un des prix les plus prestigieux du monde. Dominique Costagliola est l'invité d'RTL Soir pour répondre aux questions toujours plus nombreuses et inquiétantes que l'on se pose sur cette épidémie.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Elle est épidémiologiste, spécialiste du VUH et des maladies infectieuses, directrice de recherche à l'INSERM. Elle en a d'ailleurs, le mois dernier, reçu le Grand Prix. Dans le milieu, c'est l'équivalent d'un Oscar, c'est le top du top. Dominique Costagliola est l'invité d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Dominique Costagliola.
Bonsoir.
Merci d'être là, d'autant que vous parlez peu dans les médias et que vous avez la dent dure contre ceux qui parlent trop partout et tout le temps. Alors avant de rentrer dans le détail, je voudrais votre avis sur le moment dans lequel on se trouve par rapport à cette épidémie de Covid. Ça fait un an maintenant. En clair, est-ce qu'on est vraiment au bord du gouffre ? Est-ce que cette impression que ça va en s'aggravant est la bonne ?
En tout cas, pour l'instant, ça va. On ne voit pas de signe d'amélioration tangible. Je pense que c'est accentué par la période actuelle où, au fond, on s'est dit qu'on avait une solution avec les vaccins. Et on s'aperçoit qu'en fait, avoir un vaccin qui a démontré son efficacité, ça ne suffit pas. Il faut aussi être capable de produire en grande quantité. Et ça a été un enjeu depuis le début. Et les firmes qui développent les vaccins ont essayé de se mettre en ordre de marche pour pouvoir le produire en grande quantité.
Ouais.
Et manifestement, c'est quand même pas si facile que ça.
On va revenir sur les vaccins tout à l'heure, mais je voudrais vous faire réagir à un mot qui a été employé par le professeur Delfrécy, qui est le président du conseil scientifique hier, qui a parlé d'un virus diabolique. Est-on avec ce virus face à un adversaire qui est plus fort que nous, un adversaire qui nous oblige à être en défense en permanence, en quelque sorte, à subir ?
Enfin, il ne raisonne pas le virus, mais simplement, il est construit pour essayer de se répliquer. Et donc infecter le plus grand nombre de personnes. Et au fond, ce qu'on voit, c'est que il a commencé à circuler dans le monde entier et dans des zones, par exemple, comme le Brésil, Manaus, ou comme l'Afrique du Sud, où il y a déjà eu beaucoup de gens atteints. Forcément, ça a favorisé les mutants qui pouvait continuer à infecter des gens alors même qu'il y avait déjà eu beaucoup de gens atteints. Mmh. Donc voilà, c'est juste ce à quoi on pouvait s'attendre d'un virus.
Donc ça c'est fait comme ça. Les variants, c'est du classique en fait pour un virus.
De toute façon, depuis le début, il y a eu plein de mutations. Simplement, les virus ne feraient pas davantage pour la contamination, et donc ils ne sont pas devenus dominants. Ceux qui deviennent dominants, c'est ceux qui ont un avantage parce qu'ils se transmettent mieux ou parce qu'ils arrivent à se transmettre même dans un endroit où beaucoup de gens ont déjà acquis des anticorps naturels comme à Manaus au Brésil.
Parlons du variant britannique qui semble prendre ses aises tout doucement en France. En quoi c'est grave ça, que ce variant britannique arrive chez nous?
Disons, il est déjà là, donc on va pas réussir à contrôler qu'il se diffuse parce que le virus circule beaucoup. Mmh. Mais au fond, ça s'est déjà produit. C'est-à-dire que le virus en Chine, il a été dominé par un virus qui a été absolument celui qui a fait l'épidémie dans toute l'Europe et qui est apparu vers mars. Et c'est lui qui a fait toute notre première vague. Mmh. Donc ça s'est déjà produit. Hein, sauf qu'on ne l'a pas appelé le virus européen à l'époque, mais en fait, ça s'est déjà produit que ce soit un variant qui domine par rapport à celui qui était arrivé au début.
Alors, ça dit le... Oui.
Ce qui arrive en ce moment, c'est que finalement, d'abord, il y a plus de surveillance, et donc on a plus de latitude de découvrir les variants. Et aussi, voilà, au bout d'un an de circulation, il est obligé de trouver des solutions pour pouvoir continuer à prospérer.
Boris Johnson, qui est Premier ministre et qui n'est pas épidémiologiste, a dit que ce virus anglais était plus contagieux, ce sur quoi tout le monde semble s'accorder, mais aussi plus mortel que le précédent. Vous qui êtes épidémiologiste, est-ce qu'on peut l'affirmer, ça, que ce virus anglais est plus mortel?
Il y a deux aspects. Il y a le côté que, comme il infecte plus de gens, il y a plus de gens qui vont avoir des formes graves et plus de gens qui vont à l'hôpital et ils sont susceptibles d'en mourir.
Donc ça, c'est une question de proportion, en quelque sorte.
Après, est-ce que vraiment, chez une personne, il augmente le risque de décéder? Pour l'instant, on n'a pas encore des données totalement convaincantes pour pouvoir l'affirmer.
Et le variant sud-africain dont on entend parler, qui est aussi, alors il y a aussi le variant brésilien, vous le disiez, certains disent que face à lui, le vaccin et les vaccins seraient impuissants. Cet après-midi, Moderna nous a dit, mais non, nous, notre vaccin, il semble réagir plutôt bien. Est-ce que c'est une échelle de plus, une évolution de plus dans l'échelle du pire?
Oui, mais parce que ça correspond à une émergence dans des endroits où qui ont favorisé cette émergence. En Afrique du Sud, par exemple, on a l'idée que c'est un pays où il y a énormément de personnes infectées par le VIH, donc beaucoup n'ont pas une charge virale contrôlée, donc une moins bonne défense immune, et que ça peut favoriser l'émergence de variants assez résistants. Concernant les données sur les vaccins, donc il semble qu'il y a une réduction du taux d'anticorps, mais c'est ce que dit Moderna, le taux d'anticorps est quand même suffisant pour conférer de la protection. Je pense que on n'a pas encore une idée si clear-cut que ça pour dire le niveau d'anticorps qu'on doit avoir, c'est ce niveau-là. Mmh. Pour la grippe, on sait très bien ça, c'est sur cette base qu'on fait les vaccins tous les ans. Pour ce virus-là, c'est encore un peu tôt pour pouvoir affirmer quel niveau il faut. On sait déjà dire quand même si un niveau n'est pas suffisant, comme le confèrent les annonces là de au moins deux pistes qui ont été abandonnées pour les vaccins parce qu'on n'avait pas vu des résultats suffisants au
Alors
début.
Alors justement, l'Institut Pasteur abandonne ses recherches sur son projet principal de vaccin. Pourquoi cet échec? Comment vous l'expliquez, vous?
Vous savez, d'une façon générale, quand on fait de la recherche, que ce soit dans le domaine des vaccins ou des médicaments, la proportion de ceux qui arrivent au bout et qui ont une autorisation de mise sur le marché est assez modeste. Donc c'est juste quelque chose qui est, entre guillemets, fréquent dans la recherche vaccinale ou de la recherche thérapeutique.
Ce sont les aléas de la recherche, c'est ça?
Et simplement, là, c'est révélé, disons, d'une façon beaucoup plus large, à un public beaucoup plus large. Mais, vous voyez, il y a beaucoup de produits qui vont dans la phase 1 et dans la phase 2, puis qui vont jamais plus loin et qui n'auront jamais d'autorisation de mise sur le marché, que ce soit des traitements ou des vaccins.
C'est pas, on ne récolte pas parce qu'on n'a pas semé, il n'y a pas un problème de budget de recherche en France, il n'y a pas ce genre de questions-là, c'est hors sujet, ça?
Non, cette question-là, elle existe. existe et ce qui existe surtout, c'est le fait de ne pas financer. On donne 200 millions une année pour la recherche contre les prions, rien l'année d'après. Ben c'est pas comme ça qu'on bâtit des connaissances de fond qui vont permettre aux briques d'être prêtes le jour où il y en aura besoin. C'est ce qu'on voit par exemple avec les vaccins ARN. Mmh. Ça fait en fait 30 ans qu'il y a des recherches qui sont développées et il se trouve que les briques étaient là à la fois utiliser l'ARN messager et de l'autre côté pouvoir l'encapsuler dans des couches lipidiques et finalement au début on voyait pas tellement à quoi on allait arriver puis d'un seul coup c'est une conjonction et voilà c'est celui-là cette conjonction-là qui émerge. Mmh. Donc ça veut dire que la recherche fondamentale c'est quelque chose qui doit se financer au long cours et pas pour avoir une récompense immédiate, des choses qui rapportent de l'argent immédiatement parce qu'on ne sait pas d'où viendra la solution.
Mmh. Faute de stock de vaccins disponibles, on nous dit qu'on va décaler le rappel, la deuxième dose. En général et à la base, la Haute Autorité de Santé disait qu'il fallait... qu'il fallait 21 à 28 jours, hein, c'est ça pour un rappel, là ils veulent passer à 42 jours. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on sera moins bien protégé ou est-ce que c'est un non-événement ça?
Alors, personnellement, j'aurais pas proposé cette solution. D'abord parce que, surtout moi, je me suis beaucoup exprimée sur ça, au fond on veut voir des données. Oui. Or là, les données qu'on a vues, ben pour le Pfizer, c'est 2 injections à 21 jours. Pour le Moderna, 2 injections à 28 jours. Dans un avis que la FDA a rendu public, elle explique que dans les données des essais, on a vu 98% pour Pfizer et 92% pour Moderna, des gens qui avaient eu exactement ce schéma-là. Donc, bien sûr, dans le protocole, c'était dit qu'on pouvait aller jusqu'à 42 jours pour Pfizer, mais 98% des gens l'ont eu à 21 jours. Donc on prend un pari. Donc, le pari, c'est quoi? C'est se dire, on peut vacciner plus de gens, mais on sait pas trop comment ils vont être protégés, en particulier comme on s'adresse à des populations âgées et éventuellement avec des comorbidités. Ils ont peut-être quand même une moins bonne réponse immune si on retarde ce 1. Et on peut aussi, du fait de cette période dans laquelle ils vont être à moitié protégés, favoriser l'émergence de variants qui seraient résistants au vaccin.
Donc c'est un pari risqué qu'on est en train de prendre.
Et aussi des anticorps facilitants.
Oui.
Alors donc, on ne sait pas, peut-être qu'on va gagner, peut-être qu'on va perdre. Personnellement, si ça avait été moi, je n'aurais pas recommandé cette décision.
On serait resté sur un rappel au jour prévu à l'origine.
C'est sur ça qu'on a des données. Si on veut faire autrement, ben faisons une étude pour voir dans quelle mesure, quels sont les taux d'anticorps que l'on a quand on fait le nouveau protocole.
Là, c'est un peu un saut dans l'inconnu de décaler ce rappel.
Voilà. Mmh. Et la FDA conclut en disant que, bien sûr, les gens pensent faire ça pour pour un bénéfice de santé publique, mais peut-être qu'ils auront l'inverse.
Dominique Cossagiola, en tant qu'épidémiologiste, est-ce que vous pensez qu'il faut reconfiner?
On est aujourd'hui dans la même situation en termes de nombre de personnes hospitalisées et de nombre de personnes en réanimation qu'on était à la fin du mois d'octobre.
D'accord, donc avant le deuxième confinement.
Donc, si l'idée est de bloquer la circulation du virus le plus qu'on peut, je pense que la réponse est dans la question.
Donc il faut reconfiner.
Pour
il faut
moi,
reconfiner
oui.
Vite. Il faut reconfiner comment? Il faut fermer les écoles ou pas, par exemple?
Oui, je pense qu'on peut profiter de la proximité des vacances de février pour fermer les écoles parce que on a vu que ça avait sans doute eu des effets positifs au moment des vacances de la Toussaint, par exemple.
Ça veut dire que c'est un sujet tabou aujourd'hui nos écoles. Est-ce qu'aujourd'hui on se dit il se passe rien dans les écoles comme si le virus restait à la grille d'entrée? C'est une erreur de penser comme ça?
Moi, je pense qu'on a de plus en plus de données dans la littérature qui montrent qu'au fond, les circonstances d'infection, en tout cas celles qu'on arrive à décrire quand on fait des études, c'est des circonstances où on mange, et bien sûr, quand on mange, on n'a pas le masque, et puis en plus, bêtement, on parle, évidemment. Alors du coup, évidemment, ça se passe aussi bien à la cantine en milieu professionnel qu'en milieu scolaire, qu'à la maison, ou avec des amis. Et donc, dire que dans un endroit, il se passe rien, et dans les autres, c'est là qu'on se contamine, ça n'a pas de logique. Il y a encore une étude qui est sortie la semaine dernière sur une étude dans des foyers familiaux en Chine. Ouais. Plus de 21 000 foyers, plus de 29 000 cas au départ, qui a très bien montré que les enfants avaient moins souvent attrapé l'infection, mais qu'ils avaient été plus souvent à l'origine des transmissions au sein de leur foyer.
Vous dites, on parle à la cantine, j'ai une dernière question. L'Académie nationale de médecine a recommandé d'arrêter de parler et de téléphoner dans les transports en commun pour ne pas propager le virus. On a un peu l'impression d'être dans un mauvais film. Vous y êtes favorable, vous, à ça ? Il faut se taire dans les transports aussi ?
D'une façon générale, je pense que la raison pour laquelle on n'a pas vu ça comme une source majeure, c'est qu'on ne se parle pas beaucoup, justement. Parce que souvent, on côtoie des gens qu'on ne connaît pas, ouais. Et on n'a pas de raison de se parler. Après, en principe, on a le masque. Donc, bien sûr, on n'a pas la distance, mais en principe, on est censé avoir le masque. Tout le monde ne l'a pas à 100%, mais malgré tout, ça fait de la diminution du risque. Mais c'est juste que, effectivement, je pense pas que quand on parle avec le masque, le risque est le même que si on parle sans le masque.
Qu'est-ce qui fera qu'on pourra dire on en est sorti ? Quand est-ce qu'on va en sortir ? Est-ce que vous le savez ? Est-ce qu'on en a une idée ? Est-ce que ce sera quand on aura vacciné 70 millions de personnes, comme l'a dit Olivier Véran, fin août ? Quand est-ce qu'on en aura fini ?
Bon alors, est-ce qu'on va réussir à vacciner ce nombre de gens ? Je suis pas sûre qu'on aura les doses, parce que bien sûr on a fait des commandes, mais on a fait des commandes pour certains vaccins qui ne verront pas le jour. Mmh. On vient de voir, Merck
Pasteur,
a aussi abandonné.
Merck, ouais.
Voilà. Donc ça me paraît un peu dubitatif. Moi je pense que déjà, il faudra arriver à vacciner rapidement les personnes les plus à risque. Pourquoi ? Parce que... les raisons pour lesquelles on prend un grand nombre des mesures que l'on prend, c'est pour ne pas emboliser le système de soins, de telle sorte qu'on puisse aller à l'hôpital si on en a besoin, y compris pour d'autres raisons, sans que ce soit un problème. Et du coup, si on vaccine les personnes qui sont les plus à risque d'aller à l'hôpital, ça va quand même alléger la charge qui pèse sur nous. Et par ailleurs, ça sera aussi bénéfique pour les personnes elles-mêmes. Donc, enfin, quelque chose où on sera gagnant-gagnant.
On voit un petit horizon quand
donc,
même.
Donc, c'est ça l'horizon qu'il faut se fixer, avoir vacciné la plus grande proportion des gens à risque.
Le plus tôt possible. Merci beaucoup à vous, Dominique Costaglia, d'être venu dans RTL Soir. Bonne soirée à vous. Merci infiniment. À suivre, l'œil de Natacha Polony, assez des yakas et des faucons. Ce soir, la directrice de Marianne enfile le costume et se met dans la peau de Jean Castex.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Et Amandine Bégaud pour le rappel des titres.
Et il est toujours ce soir question de reconfinement. Jean Castex l'annonce, des décisions seront prises cette semaine, mais pas forcément les plus sévères d'après les dernières infos du service politique de RTL. Emmanuel Macron en effet serait prêt à prendre des risques sanitaires, verdict mercredi a priori avec un nouveau conseil de défense. Sur le front du vaccin, une bonne nouvelle, Moderna annonce que son vaccin reste efficace contre les nouveaux variants, qu'il s'agisse du variant britannique ou du sud-africain. Pasteur, en revanche, jette l'éponge. L'Institut français a décidé d'arrêter son projet, les essais ayant montré qu'il était moins efficace qu'espéré. Et puis c'est une info RTL, Brigitte Henriques, la vice-présidente de la Fédération française de foot, va se porter candidate à la présidence du Comité national olympique et sportif français. Élection prévue le 29 juin prochain avec bien sûr en ligne de mire les Jeux de Paris, les JO de 2024.
La météo, Louis Baudin, demain ça sera beau mais ça sera froid.
Exactement, avec du temps sec demain sur toute la France, quasiment toute la journée. Parce qu'il y aura bien quelques pluies qui arriveront sur la pointe bretonne en cours d'après-midi. Du temps sec avec effectivement un ciel souvent très dégagé le matin dans la plupart des régions. D'où des températures basses, de fortes gelées demain sur quasiment toutes les régions sauf en bord de mer. Et puis en cours d'après-midi un peu plus de nuages quand même dans la moitié ouest mais toujours sans pluie sauf donc sur la Bretagne. Ailleurs beaucoup de soleil des Pyrénées aux Alpes ou encore dans le nord-est. Et puis après ces gelées matinales, 4 à 6 degrés dans la moitié nord demain après-midi. Ça reste hivernal, 6 à 9 degrés dans le sud-ouest et 11 à 13 degrés quand même près de la Méditerranée.
Merci Louis. L'œil de Natacha Polony. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Alors tout le monde s'attend à un reconfinement, peut-être à une prise de parole du président de la République mercredi. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est la valse du Covid. Et vous Natacha, comment vous voyez les choses ?
Bon, on va être honnête Thomas, on va le dire aux auditeurs. Ce matin, vous m'avez lancé un défi. On parlait du sujet de cet édito et vous m'avez dit « Tu pourrais nous faire ce soir, Natacha Polony, se met dans la peau du Premier ministre, si j'étais Jean Castex ». Oui, non, mais il faut que les auditeurs soient au courant de ce genre de choses. Voilà,
ça marche comme ça. Quand même, hein.
Donc, je me suis prêtée à l'exercice. Et ça, pour une raison précise. En fait, les journalistes sont assez souvent accusés d'avoir la critique d'autant plus facile qu'ils n'ont aucune responsabilité. Les conseillers ne sont pas les payeurs. En plus, il y a un autre point, c'est que la machine médiatique est ainsi faite que les journalistes, en fait, se voient assez rarement rappeler leur prise de position péremptoire à côté de la plaque, comme on le fait maintenant, et d'ailleurs à juste titre, pour les politiques. Alors du coup, on va essayer.
Alors, Madame la Première Ministre, vous commencez par quoi ?
Alors, je commence par demander au président de la République de ne pas me compliquer la tâche en parlant de la France, pays de 66 millions de procureurs. Parce qu'en fait, ça s'appelle pas des procureurs, ça s'appelle des citoyens. C'est-à-dire des gens dont je suis le premier serviteur. Parce que ministre, je le rappelle, ça veut dire étymologiquement serviteur. Ensuite, je demande aux députés et aux sénateurs un débat de fond sur les choix qui ont été faits depuis le début de cette épidémie. C'est pas pour perdre du temps en palabres, pour diluer la responsabilité. Hein. C'est parce que, en fait, nous avons collectivement engagé un mouvement qui mérite de prendre régulièrement le temps du recul, de cesser pendant quelques instants d'être dans la réaction immédiate et dans l'urgence, pour nous demander tous ensemble de quoi relèvent nos choix.
Et qu'est-ce que vous voulez dire ?
On commence à avoir un certain recul au bout d'un an sur les conséquences de cette épidémie, par-delà le nombre de morts. On voit des gens qui perdent le patrimoine qu'ils ont mis une vie à se constituer, des gens qui ont joué le jeu, qui n'ont jamais enfreint aucune règle et qui perdent tout. On voit des étudiants qui sont réduits à la misère, qui n'ont pas de quoi manger. On voit des jeunes qui ne trouveront pas de travail. Et surtout, des générations entières qui n'ont même pas la possibilité de prouver leur envie de se retrousser les manches, de s'en sortir. Alors, je serais Jean Castex, et je sortirais du déni. Et je dirais aux Français, non, ça ne va pas marcher avec un vaccin. Et puis hop, on va reprendre la vie d'avant, dans 4 mois, dans 6 mois, si on est un peu lent sur les vaccinations. En fait, il y a un risque avec les mutations que nous ayons des résurgences tous les 3 mois pendant quelques années. Ce n'est pas une certitude, mais c'est un risque qu'il faut prendre en compte. Et donc, il nous appartient de décider collectivement de ce que nous devons faire et de ce que signifie en fait réellement vivre avec ce virus. Parce que si la démocratie existe, et c'est là qu'elle prend tout son sens.
Dites-moi, madame la Première ministre, vous avez téléchargé tout ce anti-Covid ou pas ?
Oui.
Ah, vous ne pouvez pas être Premier ministre alors. Non. C'est pas possible. Merci à vous, Natacha. Demain, c'est Philippe Cavrivière qui sera là avec nous. On se retrouvera lundi prochain et on vous lit évidemment dans Marianne toutes les semaines. La Somme de nos vies, c'est un roman que vous n'attendiez pas mais qui va vous faire du bien. Petit bonbon, comme l'a dit la libraire qui me l'a fait découvrir. Son auteur, Sophie Astrabi, est l'invité d'RTL Soir tout de suite.
RTL Soir. Thomas Soto, RTL Soir.
La vie est une grande succession de photographies que l'on oublie de prendre. Cette phrase est extraite de La Somme de nos vies, roman publié chez Flammarion et signé Sophie Astrabi. Bonsoir et bienvenue dans RTL Soir, Sophie Astrabi.
Bonsoir.
Et j'ai aussi envie de souhaiter la bienvenue à Camille et à Marguerite qui sont les deux personnages principaux, personnages principaux, je sais pas comment il faut dire, de ce roman. Vous nous les présentez, Camille et Marguerite ?
Oui, alors Camille, c'est une jeune femme qui est donc fleuriste, ouais. Alors qu'elle a fait des études de droit.
Et que ses parents croient qu'elle continue ses études de droit.
Elle croit qu'elle continue, voilà, ouais. Exactement. Et en fait, ce qu'elle aime bien, c'est regarder à travers les fenêtres et imaginer la vie des autres. Et on a de l'autre côté Marguerite, qui elle est une vieille dame qui vient de perdre sa dernière amie, donc qui est très seule.
Jeanne.
Voilà, et en fait, pour essayer de combler son ennui, elle décide de mettre en vente son appartement. Sans vouloir le vendre vraiment, pour rencontrer des gens.
Alors ça, on voyait bien. Ça fait du bien à Camille d'imaginer la vie des autres et d'oublier la réalité de la sienne, écrivez-vous. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, ces deux femmes qui sont à deux moments de l'échelle du temps, en quelque sorte, de l'échelle de la vie ?
Les deux, elles imaginent les vies des autres un petit peu. Enfin, surtout Camille, elle ment un petit peu à ses parents, donc comme vous l'avez dit.
Elle ment un petit peu beaucoup, quand même.
Un petit peu beaucoup. Ouais. Et donc, en fait, elle aime s'évader. Et c'est vrai que... Elle cache des choses et on découvrira aussi peut-être que le mensonge fait partie de la vie aussi de Marguerite. Et donc c'est un peu leur point commun, mais c'est vrai que il y a un petit côté effet miroir entre les deux personnages qui est intéressant, c'est-à-dire que une qui est au début de sa vie, une qui est plutôt à la fin, et donc c'est ça que je voulais montrer à travers ces deux personnages.
Et elles sont formidablement attachantes, ces deux solitudes qui s'inventent des vies en quelque sorte. Au moment où on oppose les jeunes et les vieux, que l'on dit que l'on sacrifie les uns pour sauver les autres, on s'aperçoit qu'ils ont des choses à se dire, les jeunes et les vieux.
Ils ont beaucoup de choses à s'apprendre, ouais. Effectivement. En tout cas, Marguerite, elle va aider Camille à prendre son envol, ouais. à se rendre compte qu'en fait, le mensonge, c'est pas quelque chose de bien. C'est un peu bateau, mais c'est vrai qu'on a tendance parfois à croire que tout est une grande histoire, tout est très compliqué, ouais. Alors qu'en fait, il suffit juste de faire ce qu'on a envie de faire et de s'assumer. Et
vous dites c'est un peu bateau, en fait c'est quand on lit le livre, c'est pas du tout bateau, parce que en fait, ça nous emmène sur des chemins qui sont à la fois des chemins d'évidence et puis des chemins qui sont un peu poétiques, qui sont très attachants, parce qu'on s'attache à ces deux femmes, on s'attache aussi à Thomas qui est l'agent immobilier, parce que vous le disiez, l'immobilier les rapproche. Camille visite des appartements qu'elle ne veut pas acheter, et vous le disiez, Marguerite met en vente mais ne veut pas vendre, parce que déménager c'est mourir un peu. En fait elle décide de mettre en vente son appartement pour accueillir des inconnus dans sa solitude.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai que la solitude, ça me travaille beaucoup, enfin, surtout pour les personnes âgées. C'est vrai que c'est assez fou d'imaginer que ces gens, c'est vrai que ça ressemble à une photographie, on les voit à un instant T, mais avant eux, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui sont passées. Et nous, on reste un petit peu bloqués sur cette image qu'ils renvoient. Et je trouve ça toujours intéressant de se dire qu'eux, ils ont tout leur vécu, qu'ils peuvent aider la jeune génération qui elle fait des erreurs en fait qui semblent insurmontables ou qui des choses un peu comme ça, alors qu'en fait tout est simple et tout est à portée de main.
Marguerite, c'est un peu la sagesse de Camille parfois en fait, même si elle est pas du tout glauque Marguerite, hein. Elle est rigolote, elle est joueuse, elle joue avec l'agent immobilier, elle joue avec ceux qui viennent visiter son appartement. Et Camille, elle a une phrase qui est intéressante, elle dit je cherche à acheter un appartement. Techniquement, c'est pas vraiment un mensonge puisque je cherche à acheter un appartement depuis que j'ai 6 ans, mais elle se demande si elle n'avait pas plus d'économies à cet âge-là.
Parce qu'en fait, Camille, elle a toujours été très rêveuse, c'est un personnage rêveur dans le livre qui depuis toujours s'imagine une amie imaginaire, qui s'imagine quand elle était petite, elle aimait voir la vie des autres, donc à travers les fenêtres. Et sûrement parce qu'en fait, elle est née dans un milieu avec des parents qui ne correspondent pas exactement à ce qu'elle est. Et donc, elle doit se battre pour être ce qu'elle a vraiment envie d'être. Mais c'est vrai que c'est une grande problématique pour beaucoup de gens et aussi pour moi. Finalement, j'écris, personne dans ma famille écrit. Et c'est vrai que pendant longtemps, ce problème de légitimité, cette envie d'être ce qu'on veut, malgré tout ce qui peut... le regard des autres et les attentes des autres. Donc, cette part de rêve, je voulais vraiment qu'elle soit présente parce que, en fait, c'est pas parce qu'on rêve qu'on peut pas réaliser des choses.
Ouais.
Et donc, c'était vraiment important pour moi.
On va y venir à vous parce que finalement, vous avez un peu changé de vie aussi. Tout ça. Juste un mot de Thomas, l'agent immobilier, qui a donc passé sa jeunesse à déménager à cause d'un père qui était en mal d'évasion. Toute sa vie, son père lui avait répété qu'un jour, il achèterait une aire d'autoroute sur le chemin des vacances pour avoir l'impression de partir chaque matin.
J'aime bien cette idée. Je trouve les aires d'autoroute, je trouve ça assez romanesque en fait. Je trouve que c'est fou ces gens qui se croisent. Parfois ils vont travailler, parfois ils partent en vacances. C'est un endroit assez glauque alors que finalement c'est très poétique. On s'imagine toutes ces destinations. Et c'est vrai que dans le livre il est aussi question de destinations, des destins qui se croisent, des gens qui vivent en fait dans un mouchoir de poche. Parce que c'est vrai que ces trois personnages ils vivent pas très loin l'un de l'autre et ils ont des destins différents, des envies différentes. Et en fait ils sont tous là à se voir, à se regarder.
Moi, je trouve que c'est un livre doudou parce que c'est un livre qui est plein de tendresse. Alors, le magazine Lire a lancé une grande enquête sur le goût des Français pour l'écriture et on y apprend que plus d'une personne interrogée sur deux a déjà eu envie d'écrire un livre. La Somme de nos vies est votre deuxième roman. Comment on fait pour devenir romancière? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous qui avez fait une école de commerce, hein, vous êtes comme Camille, hein, vous deviez être avocate ou, enfin, Camille devait être avocate et elle est fleuriste et elle est bien plus heureuse comme ça. Vous avez fait une école de commerce. C'est pas le chemin le plus direct vers l'Académie Goncourt, quand même.
Oui, effectivement. Alors, pourquoi j'ai fait une école de commerce, je ne sais moi-même pas. J'aime bien le business, je trouve ça sympa.
Qu'est-ce qui vous donne à un moment cette force de dire, voilà, je prends mon stylo, j'écris un livre, j'envoie à un éditeur
En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que mon premier boulot, je l'ai trouvé assez décevant. C'était pas du tout ce que j'avais imaginé que ça serait. Donc, je suis retrouvée un petit peu là, en train de dire ce que je fais, c'est pas mes valeurs. Et puis surtout, j'en suis pas fière. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait me rendre fière? Parce que je me suis dit, si à 25 ans, on est déjà pas fière de ce qu'on fait, c'est mal parti. Et en fait, du coup, je me suis dit, qui me rendrait vraiment fière, ce serait d'écrire un livre, parce que je trouve aussi que dans la vie, on fait rarement des projets de A à Z.
Ouais.
Je trouve qu'on, quand ce soit en études, on fait parfois une partie d'une présentation, on fait le grand A, petit B, petit C. Et en fait, je voulais me prouver que j'étais capable de faire un truc du début à la fin, toute seule. Et je trouvais aussi que le fait d'écrire, c'est quelque chose de... En fait, c'est pas un mensonge, c'est quelque chose de... On donne du bonheur aux gens la plupart du temps. En tout cas, j'espère. Et donc, je trouvais que c'était positif, il y avait que des belles valeurs. Et puis, c'était ce que j'aimais faire aussi quand j'étais petite. En fait, ce que j'aimais le plus à l'école, c'était le moment où le professeur annonçait rédaction. Donc, en fait, tout ça a fait que je me suis dit, à 25 ans, on va se tourner vers les choses qui sont en moi déjà et que je voudrais réaliser.
Et vous devez avoir une bonne étoile, parce que votre premier livre, hein, Le Pacte d'Avril, vous l'avez d'abord publié en auto-édition sur Amazon, parce qu'il paraît que vous n'osiez pas l'envoyer, et qu'en auto-édition, vous passez devant Laïla Slimani sur Amazon, et que le deuxième, donc celui-là, la Somme de nos vies, il vivote, hein, parce qu'en plus, il sort en période de confinement, enfin, toute cette crise de Covid. Et puis, il est évoqué dans un sujet du 20h de France 2. Il y a une libraire qui dit donc que c'est un bonbon, et alors là, il paraît que les ventes explosent complètement.
Oui, alors c'était complètement surprise, parce que je ne savais pas qu'il y aurait ce reportage-là. Et en fait, c'est vrai que ce livre, il a eu quelques péripéties parce qu'il devait sortir en avril. Il était imprimé, il était prêt à sortir et il s'est retrouvé chez le libraire, mais avec des librairies fermées. Donc on a décidé de le sortir en juin.
Qui est une époque pourrie, hein, pour sortir.
Qui n'est pas une super époque parce qu'on part vite en vacances.
Il n'y a pas le temps de faire la promo.
Voilà, pas de promo. Toutes ces choses-là qui font que ce n'est pas terrible, mais il a réussi à se maintenir sur les tables des libraires, ce qui est bien. Et en fait, ce que disait la libraire du Roi Livre à Paris, elle disait qu'elle avait conseillé en juin quand il est sorti parce qu'elle avait beaucoup aimé. Et en fait, les gens qui l'avaient acheté en juin, ils revenaient l'acheter à Noël pour l'offrir en cadeau. Et ce qui fait qu'il était top vente de sa librairie.
Il paraît qu'il y a une phrase qui vous honte, ça sera ma dernière question, une petite phrase qui se trouve dans la Somme de nos vies. Une vie se rate si vite. Vous en êtes toute cette peur, vous?
Moi, j'ai toujours peur de ça, parce que j'ai l'impression que c'est vrai, qu'une vie se rate si vite. Et donc, c'est pour ça aussi que finalement, quand j'avais 25 ans et que j'ai démissionné, c'était parce que, par rapport à cette peur, je me dis, je veux pas rater ce moment-là. Si c'est possible de le faire là, il faut le faire. Et de manière générale, ce livre aussi, je me suis battue un petit peu en me disant, c'est vrai que c'est une petite forme d'artisanat, un livre. Et en fait, c'est de la débrouillardise, parce que il était plutôt, tout est compliqué dans cette période. Donc, dès qu'on a la possibilité de faire quelque chose pour que ça réussisse, il faut le faire.
Eh ben, il faut y aller. Merci Sophie Astravi. Ça s'appelle donc La Somme de nos vies. C'est en librairie, disponible aussi en ligne sur Amazon et consorts. Allez-y. Hein, je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde. Elle a été rééditée là cette fois-ci.
C'est ça.
Bon, alors allez-y quand même. Et c'est publié chez Flammarion. La Somme de nos vies. Merci à vous.
Merci
d'être venu ce soir. Dans un instant, la culture de l'actu avec Julien Molcou qui flirte avec les milliardaires ce soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
RTL Soir avec Thomas Soto.
Et c'est l'heure de la culture de l'actu. Ce matin, l'ONG Oxfam a publié son rapport sur les inégalités et on s'aperçoit, Julia Molcou, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Que les plus grosses fortunes mondiales sont non seulement épargnées, mais parfois même renforcées par la pandémie, par le coronavirus. Alors ce soir, dans la culture de l'actu, vous êtes intéressé aux riches, aux très riches.
Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame.
Alors la chanteuse Angèle a raison, hein, la thune, la fame, ils sont quelques-uns dans la vraie vie à courir après cela, mais ils sont aussi un certain nombre dans la fiction.
On m'a dérobé mon argent. Qu'est-il devenu? Où est-il? Où se cache-t-il? N'est-il point là? N'est-il point ici?
Sans toi, il m'est impossible de vivre.
Je me meurs.
En 2009, Denis Podalydès mettait en scène l'avare à la Comédie-Française et il y incarnait Harpagon, ce personnage de Molière, bourgeois, riche mais surtout très avare, qui n'a qu'une obsession, protéger sa cassette pleine d'or. Et savez-vous qui, lors de son arrivée en France en 1949, apparaît comme étant l'oncle d'Harpagon justement? Non,
non.
Écoutez.
Il vaut des milliards.
Picsou. Balthazar Picsou.
Même on était avec Molière et bam, elle nommait Picsou dans les
gencives. C'est ça la culture de l'actu. Balthazar Picsou, Scrooge McDuck en version originale, créé en 47 et présenté donc comme l'oncle d'Harpagon en raison de son avarice. Et figurez-vous que selon le magazine Forbes, avec son coffre fort de plus de 30 000 mètres cubes, je vous laisse réfléchir, 30 000 mètres
c'est
cubes,
beaucoup.
Picsou est le personnage de fiction le plus riche du monde, devant Batman, devant Iron Man, très loin même devant Monsieur Monopoly.
Mais ils ont que ça à faire chez Forbes.
Non mais parfois ils se détendent.
La taille
et c'est très sérieux, en plus il le mesure très sérieusement, devant même Gatsby le Magnifique. Ceci dit, si vous souhaitez toujours épouser un millionnaire, faites comme moi, suivez le guide.
La légende dit que Louis Baudin aurait préféré épouser Marilyn Monroe ou Lorraine Bacall qu'un millionnaire, mais c'est une légende. Comment épouser un millionnaire?
Exactement, Marilyn. Tout à fait. Comédie romantique sortie en 1953 et qui raconte l'histoire de trois amis qui vont prendre un très bel appartement à New York dans le but de rencontrer un homme riche, voire très riche, donc pas celui qui vient maintenant.
If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidum. All day long, I bidibidibum. If I were a wealthy man.
Hey! If I Was a Rich Man, chanson tirée de la comédie musicale Le Violon sur le Toit, créée à New York en 1964. Chanson qui raconte tout ce que pourrait faire un pauvre laitier s'il avait de l'argent. Reprise et traduite de nombreuses fois de Dalida à Gwen Stefani en 2004.
Ah ouais. Ça alors.
Et
on
ouais.
apprend.
Bon, mais l'argent, elle a réussi.
Elle le fait bien, le nananana.
Ouais, elle le fait bien.
Ah ouais. Ça fait bien. Elle l'a pas refait. Bon, allez-y.
Bon, mais l'argent et la réussite font-ils vraiment le bonheur? Eh bien, pas sûr à en croire ce businessman, vous le reconnaissez?
J'aurais voulu être un artiste.
Sorti à 45 tours, là, ça fait crunch crunch.
Vous l'avez, Louis?
T'as Claude Dubois.
Tapis. Non, mais oui, c'est... non, mais ça c'est Tapi, ça c'est la version de Tapi, ça oui.
Bon.
Ça c'est la version de
Tapi.
Ça c'est Bernard Tapi en 1985 dans Le Jeu de la Vérité, émission de Patrick Sabatier. Et effectivement, c'est tiré de l'opéra rock Starmania de Plamondon et Berger, qui est sorti en 78. Bon allez, pour conclure, ils peuvent bien être riches, très riches, trop riches. Il y aura toujours quelque chose qu'ils ne pourront pas acheter. Ne peut pas m'acheter amour en français dans le texte. Chanson des Beatles enregistrée en janvier 64 au studio Pathé Marconi à Boulogne-Billancourt lors d'un séjour du groupe à Paris. C'est l'un des plus gros sujets succès des Beatles.
Merci Julia Molcou.
Merci
les Beatles.